vendredi, ça lie l'intime à l'agréable. C'est le grand format dans la JT.
Et c'est sur l'autre radio. Aujourd'hui, on traverse la Mayenne, mais pas seulement. On remonte un chemin, celui d'un homme qui depuis toujours tend la main. Loïc Méjean, c'est un peu cet artisan de l'ombre qui éclaire les routes oubliées, celles des laissés pour compte, des cabossés par la vie, des silencieux. Théâtre, cinéma, festival, des mots qui résonnent comme des invitations à se relever, à se rassembler, à croire encore. Alors il y a 10 ans, il a planté une graine à Cran, une petite graine de poésie, de rencontre, qu'il a appelé le Festival des 37. 10 ans plus tard, ce festival est devenu un refuge pour les âmes errantes, pour les artistes en quête, pour les spectateurs curieux. Alors aujourd'hui, on prend le temps, on fait le portrait d'un passeur. Loïc Méjean, c'est l'homme qui a décidé que l'art pouvait être une main tendue, un pont lancé entre ceux qu'on n'entend pas et ceux qui ne savaient pas qu'ils avaient tant à écouter. Asseyez-vous, prenez une tasse de thé ou ouvrez simplement grand vos oreilles. On vous emmène dans une histoire où le social, le théâtre et le cinéma ne sont pas des mondes à part, ce sont les ingrédients d'un mélange subtil qu'ils partagent avec une humanité désarmante. Bienvenue dans une parenthèse de douceur et de lumière, amis auditeurs. Aujourd'hui, c'est le grand format de l'AJT du local. Et je vous le disais, on rencontre Loïc Méjean. Suivez-moi. Il y a des artistes qui jouent sur scène et d'autres qui sculptent des ponts entre les mondes. Loïc Méjean est de ceux-là, un passeur d'histoire et d'espoir qui mêle le théâtre, le cinéma et les sciences sociales pour donner voix à ceux que la vie rend invisibles. Et il a fait éclore le Festival des 37, un lieu où l'art devient un souffle commun, une lumière dans les interstices. Aujourd'hui, Loïc, tu es avec moi pour retracer ce chemin atypique entre création et engagement à l'occasion des 10 ans du festival. Et justement, je le disais, ton parcours allie étroitement l'art et le travail social. À quel moment est-ce que tu as fait cohabiter dans ta pratique ces deux dimensions? Est-ce que tu peux nous raconter le début de ton parcours?
Il faut remonter, je pense, dans l'histoire, dans mon histoire, dans ce que ça a pu être comme déclencheur, le travail social. J'ai commencé par le théâtre. Très vite, j'ai donné des cours dans un établissement à caractère social. Et des éducateurs m'ont dit « mais ce serait bien que tu en fasses ton métier, enfin que tu passes le diplôme tout du moins, etc. etc. » Et j'ai passé un diplôme d'éducateur spécialisé suite à ça, que j'ai passé à Angers, que je l'ai obtenu. J'ai trouvé ça bien d'allier les deux, d'allier le travail social et puis le théâtre. Je trouvais que le théâtre était une forme d'expression totalement libre, totalement abordable par tout le monde, quel que soit son niveau. Et de fait, à la sortie du diplôme en 1987, je suis retombé tout de suite dans le théâtre, mais avec cette idée de poursuivre le travail social, enfin à travers le théâtre d'abord. J'ai fait quelques pièces avec des jeunes qui étaient repris de justice. J'ai même fait des pièces dans des prisons. J'ai quand même fait un parcours de comédien classique. Théâtre des Pays de la Loire, le Théâtre du Tiroir ici à Laval, avec qui j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Luc Bansard. Et puis... Différentes compagnies, évidemment un parcours classique, mais en parallèle toujours des actions sociales. C'est-à-dire, j'allais dans les quartiers, j'allais dans les prisons, j'allais un peu partout où l'individu n'a pas forcément droit à la parole, en ce terme. Et après, il y a une dizaine d'années, donc je disais que j'avais repris des études universitaires pour creuser ce chemin, ce sillon. Quand on est dans l'action, on a la tête baissée, on ne sait pas trop où on va. J'ai décidé d'arrêter un temps, le temps d'une année ou d'une année universitaire. J'ai passé un master 2 qui m'a permis de vraiment creuser cette situation, la culture, la société, les éléments qui entourent tout ça, le processus qui fait que on gagne du terrain par rapport au social avec l'art, l'art entre guillemets. Hein. Suite à ça, j'ai été contacté par un laboratoire de recherche à Nantes. J'ai entamé une thèse pour encore plus approfondir cette histoire. Et j'ai pas pu soutenir la thèse, c'est-à-dire que j'avais pas les moyens et j'en suis resté qu'à trois années. Mais c'est pas grave, c'est pas un échec forcément. Ça m'a permis d'approfondir véritablement le sujet.
Et alors, est-ce que tu te souviens du sujet de ta thèse ?
Oui, c'était en quoi le théâtre est vecteur de lien social ou de non-disqualification sociale, ou de requalification sociale plus exactement. Ça, c'est le parcours qui m'a amené dans le paysage de Cran, puisque je ne connaissais pas du tout cette région. Et c'est au cours d'un stage, dans le cadre du master, le pays de Cran m'a retenu, me disant qu'on pouvait parler du métier à des personnes. Et j'ai parlé du métier, simplement en disant de quoi il retournait, etc. Et de là, les gens m'ont dit « mais on veut bien faire un essai avec toi », tout ça. Ce qui n'était pas prévu, je venais juste comme ça. Et puis, ça fait 15 ans que je suis sur le territoire, quoi. Parce qu'on s'est aperçu que, véritablement, ça créait du lien, ça créait des histoires, ça créait des rapprochements entre les individus, c'est clair.
Est-ce qu'on peut dire que l'un nourrit l'autre entre ce qui nous est raconté et ceux qui nous le racontent sur ces projets qui allient l'art et le social ?
C'est-à-dire les gens vont pas se livrer, véritablement. Mais en quelque sorte, le théâtre est un trait d'union entre leur vie, ce qu'on peut raconter au niveau du théâtre. Ça en reste là, en principe.
Tu parles de disqualification sociale. Est-ce que tu peux nous expliquer comment peut-être le théâtre ou le cinéma peut aider les individus justement à gagner une place dans la société ?
Tout du moins à recréer du lien social. En général, les gens disqualifiés, c'est-à-dire les gens qui ont perdu un travail, qui ont perdu un amour de leur vie, qui sont dans des situations compliquées, rejeté un peu de la société, il faut bien le dire, pas reconnu, pas écouté, pas véritablement. Hein. Le théâtre permet une parole, c'est en ça que c'est puissant, c'est une parole qu'on peut entendre, voir les gens, on sent les gens sur scène ou dans un film, enfin en tout cas on peut les voir. Et c'est en ça que le changement de regard se procède, il y a un processus qui fait que les gens jouent ce qui n'est pas eux et de là deviennent acteurs de leur vie. Ils regagnent une place dans la société, en tout cas dans un microcosme, ça reste toujours relatif, quoi. Ils n'ont pas perdu de place, ils ont un moment, un temps qui les a privés de quelque chose, qui les a interdits de quelque chose, qui les a mis un peu à côté. Et le fait qu'ils s'intègrent, alors ça, le théâtre, c'est un prétexte, mais c'est un bon prétexte, le fait qu'ils s'intègrent à ce groupe, là, il va se passer quelque chose. Il va se passer un élément important parce qu'ils vont jouer et petit à petit, ils vont retrouver la confiance en eux. C'est-à-dire, je peux faire ça, je peux dire ça. Ils vont retrouver cet espace-là. Et à partir de là, ils vont regagner petit à petit ce qui leur a manqué. Et de ce fait, ils vont s'intégrer, ils vont retrouver une place, oui, ils vont bénéficier d'un entourage, de liens sociaux. Ils vont participer à d'autres activités, il n'y a pas que le théâtre. Hein. Je crois que les ateliers d'échange, cet espace de découverte et d'initiative, est hyper puissant pour ça.
Et justement, Loïc, on parle des ateliers d'échange concrètement, qu'est-ce que c'est ?
En Mayenne, les ateliers d'échange, c'est les EDI en fait. En Mayenne, on appelle ça espace de découverte et d'initiative. Il y en a une dizaine répartis sur tout le territoire. Ici à Laval, vous en avez un ou deux, je ne sais plus. Mais qui permettent, c'est des maisons qui permettent à quiconque de venir échanger son savoir, participer à des activités, etc. C'est des lieux essentiels, à mon avis, parce qu'on est au cœur de l'humanité, c'est-à-dire les gens sont, quand ils sont en difficulté, quelle qu'elle soit, ils peuvent venir quand ils se sentent isolés, quand ils ont envie de partager quelque chose, ils peuvent, ils ont un lieu pour ça. Et c'est rare. Autrement, c'est des associations, c'est très dans l'entre-soi, en général, hein. Et là, on découvre une diversité de populations. Et ça, c'est très important pour le bien-être de chacun socialement et puis même le bien-être tout simple.
On parle d'exclusion et d'isolement, Loïc. Finalement, tout à chacun un jour peut se retrouver dans cette situation.
Oui, on peut avoir des difficultés à un moment donné, tous. Mais on sait très bien que le réseau social qu'on a construit, ça dépend ce qu'on a construit, hein, peut aider. Il n'y a pas de profil type, c'est sûr. Il y a des personnes qui sont en situation d'isolement parce que telle et telle chose aurait arrivé. Il y en a d'autres qui sont en disons, difficultés psychiques. Ils ne sont pas isolés, mais ils ont des difficultés psychiques. Il y en a d'autres qui n'ont pas de difficultés, il faut bien le dire, le groupe est aussi mixé, il y a de la mixité sociale. Ce panel-là de gens se retrouve ensemble. Mais il n'y a pas véritablement de profil type. Je réfléchis en même temps que je te parle. Il y a des gens qui, économiquement, sont en difficulté. De ce fait, ils sont en situation de précarité, ça veut dire peut-être l'isolement les guette.
Loïc, tu as créé l'association L'autre vie du papillon. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
C'est une association qui a été créée, je ne sais plus quand exactement, 2013-14, et qui regroupe un certain nombre d'artistes que je coopte selon fonction de mon carnet d'adresse, j'allais dire, mais fonction de leur disponibilité. Il y a des réalisateurs, des metteurs en scène, des preneurs de son. Donc c'est une structure administrative d'abord, hein, et qui a été créée parce qu'il y avait deux festivals à l'origine. J'en avais un autre sur Angers. Que j'ai fait éclore aussi. Et celui d'Angers, j'ai laissé à des copains parce que je ne pouvais pas m'occuper de tout. Et j'ai consacré, j'ai donné toute mon énergie à celui de Caen, quoi, voilà. Grosso modo, je ne pouvais pas faire les déplacements, tout ça, ça n'allait pas. Mais c'était le même principe qui a été réalisé, en fait, dans la ville d'Angers. Et ce parallèle, d'ailleurs, était intéressant parce qu'il y avait un côté urbain, un côté rural. Et on voyait les difficultés qui se ressemblent à plein de points de vue. L'autre vie du papillon, bah, c'est une source d'espoir, par du principe du papillon, de la chrysalide, etc. Mais voilà, c'est pas plus que ça. Non plus.
C'est l'association qui porte le festival
Oui, avec le CIS du Pays de Caen, très important, évidemment. C'est vraiment une action sociale, à proprement parler. On utilise, je le répète, mais le festival pour comme prétexte à rassembler les gens. C'est un bon moyen, c'est un excellent moyen, parce qu'il y a un aspect créatif qui est indiscutable. On crée de rien et on part vers quelque chose de l'inconnu. Mais voilà, c'est ça.
Si on parle du Festival des 37, de sa création, qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Comment est venue cette idée ? Le point de départ, qu'est-ce que c'est ?
C'est tout simple. On était en tournée d'un petit théâtre, un petit spectacle de théâtre qu'on avait créé, qui s'appelait « Un jour, nous prendrons les trains qui partent ». Et au milieu de la tournée, il y a des gens qui ont dit « Mais pourquoi tu ne nous ferais pas de faire du cinéma ?» Tout ça. Bon, oui. Alors on s'est réunis, on était une vingtaine de personnes aux ateliers d'échange, une fois encore. Et là, des gens ont dit « Ah, mais c'est l'ouverture du Festival de Cannes. Ah oui, le festival !» Et tout le monde a commencé un peu à s'agiter autour de ça, à dire mais pourquoi on n'aurait pas notre festival mais j'ai trouvé ça, je leur ai dit sur le moment, très intéressant. Mais non, on déconne, c'est pour rigoler, tout ça. Mais non, je trouve l'idée séduisante, on va faire un festival, et à partir de là, c'est parti comme ça. On va faire un festival, j'ai appelé des copains réalisateurs, on a écrit des scénarios, on a fait un clin d'œil au cinéma, d'abord, la première édition, qui partait des frères Lumière aux frères Cohen, en passant par... Il n'y a pas que des frères, hein, bien sûr. Mais on traitait un peu tous les sujets, de Louise Michel, le film d'Élépine Kerver. Il y a aussi Les 400 coups de Truffaut. Enfin, on a fait plein de clins d'œil comme ça. Et à partir de là, on a vu la résonance que ça a eu sur le territoire. Il y a eu 1000 personnes, plus de 1000 personnes à venir. On s'est dit, c'est quand même une idée qui est fédératrice, qui est dans cette cohésion qu'on cherche toujours, qui est la cohésion sociale. Et à partir de là, les éditions se sont enchaînées. En fait, on essaie toujours de varier théâtre, cinéma, parce que les gens sont très friands de théâtre. Pour les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure, c'est une vraie valorisation, une espèce d'équipe, d'esprit d'équipe. Il y a vraiment tout ça, toute cette matière-là qui est intéressante dans le théâtre. Et puis le cinéma, ça permet aussi des études d'écriture, faire participer plus toute la population.
J'imagine que c'est différent. Au théâtre, effectivement, on est dans le collectif. Pendant une heure, on va devoir tenir la barque tous ensemble. Alors que le cinéma, c'est... pendant 30 secondes, la caméra tourne et puis ensuite on discute, on échange, on pose la caméra autrement, on rejoue une autre scène. Le rythme est différent.
Ah oui, c'est un autre rythme. Mmh. Les gens n'aiment pas trop ce rythme, en fait, parce qu'il faut attendre, parce qu'il faut... Bon, après, ils sont contents de la réalisation. Mais c'est vrai que le théâtre, on s'engage davantage, enfin, je ne sais pas comment dire, mais on est plus un collectif au service de quelque chose, mais au cinéma aussi, parfois. Mais effectivement...
L'engagement dans l'instant n'est pas le même.
N'est pas le même, non. Non, puis on a répété énormément de fois au théâtre. Oui, mais on ne peut pas refaire. On ne peut pas retourner... la page, quoi, voilà.
Et toi, ta sensibilité personnelle en tant que comédien ou même metteur en scène se trouve plus du côté du théâtre ou du cinéma ?
Mais spectateur, je préfère le cinéma. Mais bien que je fais beaucoup de théâtre et que j'aime encore voir des pièces, mais il y a quelque chose de fascinant dans le cinéma, pour moi, hein, pour moi, évidemment, ouais.
Du cinéma, comme si la vie suffisait pas. On allume des projos à rendre le soleil penaud. On dirige des micros comme si nos oreilles étaient miroirs. On raconte des histoires, on fait pas semblant d'y croire. On fait du cinéma comme si la vie suffisait pas. De nous voir plus grands des fois, c'est tellement moi que c'est pas moi. Comme demain, comme autrefois, on fait toujours du cinéma. Et s'il ne restait que ça de notre passage ici-bas.
Good luck.
cinéma, ce qui le mieux nous décrira. Quand on sera plus là, quand un vrai E.T. nous regardera. Quand on sera plus là, il restera le cinéma. Quand on sera plus là, ben, on sera toujours là. On fait du cinéma.
Philippe Catherine, cinéma, c'est le grand format dans la JT du local et on est en compagnie de Loïc Méjean à l'origine du festival des 37 aujourd'hui. On a parlé de la toute première édition du festival qui a très bien fonctionné. Est-ce que ça a été une évidence d'en faire une seconde, Loïc ?
Oui, ça a été une évidence pour la deuxième. On s'est dit on va faire une deuxième édition. Et puis, il y a eu le Covid bon, qui nous a un peu, comme tout le monde, happé. On a fait une troisième édition, montée un peu, on va dire à l'arrache, mais pas loin. Hein, parce qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, d'autant plus pour ces gens qui sont, encore une fois, le confinement, etc. Ça les a un peu bloqués. Et puis... La quatrième édition, voilà, là, c'était une évidence totale, forcément, et ce qui suit aussi, parce que on s'aperçoit de la crédibilité de ce genre d'événement. C'est un événement qui se prépare pendant plus de 18 mois, et qui a lieu pendant une semaine. Ça véhicule de l'enfance jusqu'au, on peut dire, de 0 à 102 ans. mais c'est vrai, c'est toute la population qui se met en marche. Alors, il y a toujours cette lutte un peu pour valider cet esprit. C'est pas gagné tout le temps, parce que les gens ont besoin d'être sécurisés sur le fait que nous nous assistons pas les gens, c'est que les gens soient pas dans un assistana, voilà, que ce sont les gens qui font, etc., etc. Mais chaque année je redis les mêmes choses, que c'est au contraire donner les outils aux gens pour qu'ils soient plus autonomes, qu'ils soient plus en lien social, intégrés dans leur vie, etc., etc. Chaque année, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il faut convaincre. Donc, c'est jamais une évidence. Ça le devient de plus en plus. On parle dans le territoire d'identité du territoire comme quelque chose qui appartient à ce territoire et qui est vraiment fort. Et puis, voilà, on maintient ça pour l'instant. Enfin, voilà.
Chaque année, il y a un thème différent qui est choisi. Alors, comment est-ce que ce choix est fait ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est collectivement ?
Tout ce qui est décidé, en principe, une grande majorité, c'est les gens qui décident. Oui, je fais des émissions de radio un peu solitaires, mais c'est la seule chose. Et encore, il y a des fois, on les invite, hein, bien sûr, bien sûr.
Lors de la dernière édition du festival, un documentaire a été réalisé sur le festival en lui-même. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, et même de cette rencontre avec le réalisateur Jean-François Castel ?
Oui, Jean-François Castel, il a été parrain de la quatrième édition, et c'est en ça que je suis allé le voir, pour qu'il soit le parrain de l'édition. Et puis, une semaine après, à peu près, il m'a donné son accord, et puis il m'a parlé d'une possibilité de faire un documentaire sur le sujet. Sur le sujet du festival. Et ce documentaire sort là, en ce moment. Il va avoir la vie d'un documentaire, festival, etc. etc. En espérant une longue vie à ce documentaire. Donc il est venu 18 mois filmer pas à pas la création de ce festival. Il a vraiment passé beaucoup d'heures, beaucoup de temps avec trois caméras et une discrétion hors norme. Les gens ne s'apercevaient pas trop de... Donc ça, c'est intéressant quand même, comme trace, c'est très vivant.
Le film Un tapis rouge dans le pré a été projeté en avant-première au cinéma Les 400 coups à Angers. Il y a eu un retour très positif du public. Le réalisateur a finalement choisi comme angle de vraiment montrer l'impact positif du festival et des ateliers d'échange sur l'ensemble des participants. Il y a quelque chose que toi tu as souligné, c'est que finalement, quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans le film, mais qui fait partie des réalités, c'est aussi parfois des situations un peu compliquées qu'il faut gérer. C'est aussi important de mentionner que ces projets d'une grande richesse et d'une grande importance ont aussi ces difficultés-là, ces moments un peu complexes.
Oui, c'est certain. Je crois que, bon, c'est pas ce qui manque au documentaire. Il a fait des choix de montrer que le positif. Mais évidemment, derrière, il y a souvent des conflits à gérer, des comportements aussi à gérer. C'est vrai que c'est pas évident toujours. Particulièrement cette année, ça a été difficile, mais je crois qu'on arrive à... Alors ça, c'est la magie du théâtre, peut-être. On arrive toujours à voir tout le monde. Les gens vivent des maladies, vivent des choses très difficiles dans leur vie, et ils sont là.
Loïc, tu es toi au cœur de la création, au cœur de ce projet-là. Tu as un regard à la fois intérieur et extérieur. Tu dois... voir directement, toi, et percevoir l'impact que ça peut avoir sur ces parcours, sur ces histoires à chaque fois singulières, sur les différentes personnes en fait, qui participent aux ateliers d'échange.
Oui, oui, j'ai vu beaucoup de parcours. Il y en a de notables, par exemple Jean-Claude, qui a été... c'était très remarquable son parcours. Il avait une addiction à l'alcool. Enfin, je dis avait parce que il n'est plus là. Son travail à Jean-Claude a été très important parce que il a toujours maintenu sa présence. Et au fil des années, il a acquis certaines compétences, il a d'acteur notamment, et il a changé le regard de son village, par exemple. Ça a été complètement différent. Les gens ont vu Jean-Claude sur scène. Ceux qui ne l'ont pas vu ont entendu parler, et ça a changé le regard. Ça n'a pas changé son addiction, mais ça a changé le regard. À un tel point que quand il est décédé, la mère de village m'a appelé me disant « Jean-Claude n'aura peut-être personne à son enterrement, etc. Est-ce que vous pouvez venir vous atelier de théâtre ?» Parce qu'il était très, très en adhésion avec ça. Et ouais, évidemment, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué durablement. Il y en a plein d'exemples comme ça. Il y a des exemples de gens qui étaient en totale dépression et qui sont venus témoigner. On a fait une lecture de témoignages que j'ai pu écrire et relever, enfin, véritablement. Et ça, c'est... Là, on a noté, on a creusé à partir de ces témoignages-là, qui sont vrais. Enfin, c'est les gens qui se livrent très difficilement, et quand on peut avoir ces documents, et c'est important, c'est la parole du quart monde, enfin, dans certains endroits c'est la parole des invisibles, c'est très important pour j'allais dire pour une démocratie d'avoir ce point de vue. C'est en ça qu'on rejoint un peu la politique aussi. Mais c'est la politique de cité, la politique qui n'est pas de la fiction, on est vraiment dans le cœur des choses.
Festival des 37 fête ses 10 ans cette année. Ça aura lieu donc ce week-end à l'espace culturel Saint-Clément de Cran. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il va se passer plus précisément ?
On marque le coup, il y a une édition en 2025. Donc cette année, on fait une rétrospective le samedi 14, rétrospective avec 8 courts-métrages, je disais, et un documentaire, le documentaire de Jean-François, Un tapis rouge dans le pré. Et le vendredi, on présente la pièce. C'est une forme théâtrale, un foutrac de scènes qu'ils ont improvisées. Je garde tous les témoignages de leur façon d'improviser, etc. Et on a rassemblé tout ça dans un méli-mélo d'aéroport. Ça se passe sur un aéroport. Et ça donne une forme théâtrale. Voilà. Je n'en dis pas plus. Il faut venir voir.
Alors, est-ce qu'on peut donner les dates, les lieux pour l'auditeur de l'autre radio ?
Le 13, c'est à 20h. C'est la pièce de théâtre, enfin, ce qu'on peut appeler la forme théâtrale. À 18h30, je crois, c'est le rétrospective. Et à 20h30, c'est le film. Alors, il y a un petit repas. Enfin, c'est pas un repas, c'est un apéro dînatoire. Entre 19h30 et 20h30, où les gens sont invités à s'inscrire déjà pour venir.
Okay. Est-ce que Jean-François Castel sera là ? Je sais.
Oui.
Il sera là, donc il y aura moyen d'échanger aussi avec lui.
Oui, et il nous a proposé de capter en vidéo la pièce. Voilà.
Okay. Aujourd'hui, l'actualité est forte pour la culture en région Pays de la Loire avec l'annonce des coupes budgétaires. Est-ce que le Festival des 37 est touché ? En tout cas, toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça ?
C'est-à-dire, nous, on a pas grand-chose à voir avec la région, bien que. Le passeur d'image nous suit et nous avons un soutien chaque édition, c'est remis en cause. C'est regrettable hein, tout ce qui se passe dans ce domaine parce que ça impacte énormément les autres festivals. Nous, on est très social, mais c'est pas pour ça qu'on sera épargné. On peut avoir de l'espoir quand même pour dire qu'on ne coûte pas cher.
Et alors un espoir peut-être que tu aurais un peu plus personnel concernant le Festival des 37. Est-ce que tu souhaites le voir évoluer, notamment à l'avant-première? Tu as pu dire que tu voulais quand même que ça reste un festival à taille humaine. Tu ne veux pas qu'il prenne des proportions énormes.
Oui, parce que les gens ne s'y retrouveraient plus. Déjà, j'ai senti les limites de quand on invite des gens. Alors le parrainage, c'est toujours intéressant parce que ça fait rayonner un autre public. Ça fait... Mais j'ai conscience que les gens, c'est pour eux d'abord. Donc il ne faut pas que ce soit une lumière sur quelqu'un ou une évolution dans les films, etc. Ils sont très... on est d'accord pour l'évolution. Mais on mesure un peu les choses pour pas que ça nous échappe et pas que ça leur échappe.
Et pour terminer, si tu devais poser un regard sur ton propre parcours, sur tout ce que tu as pu créer et mettre en place qui allie justement l'art et le social, ce dont on vient de parler, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire à toi-même ?
Ben, je crois que j'ai toujours eu cette fibre sociale, cet intérêt pour les personnes invisibles ou disqualifiées. J'ai toujours permis aux gens de faire du théâtre. Enfin, j'ai permis, je ne sais pas si ça se dit, c'est un peu prétentieux. Mais en tout cas, j'ai œuvré pour... Je ne sais pas ce que je pourrais dire, c'est normal. Enfin, il y a quelque chose qui est normal dans ma posture. Je peux le faire, c'est tout simple, hein. c'est normal. C'est donner la parole et puis voilà quoi, c'est pas plus que ça en fait.
Merci beaucoup Loïc. Et donc je le rappelle, pour fêter les 10 ans aux côtés du Festival des 37, ça se passe ce soir et demain à l'espace culturel de Saint-Clément de Cran. Merci beaucoup Loïc. C'est le grand format dans la JT. On commence l'agenda culturel de la semaine à la voix de Garage à Olivet. C'est en partenariat avec le 6x4 et le dispositif 5-3. C'est une soirée de concert qui accueille trois groupes. Sur scène, vous pourrez découvrir le groupe Jonas Larrot, suivi de Scène d'Esprit. Et enfin, Sorg, c'est un concert gratuit en partenariat avec le bar associatif. Et donc, c'est ce soir que ça se passe. L'agenda culturel continue au théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Et c'est Marie Collet qui nous en parle. Écoutez.
Formidable, que nous accueillerons le 18 décembre 2024, juste avant les fêtes de Noël, est un seul en scène porté par Olivier Palmer. Olivier Palmer est un jongleur que nous avons découvert l'année dernière dans un projet Allo Jonglage où il allait chez l'habitant proposer un petit menu jonglé. On s'est retrouvé face à un artiste très généreux, très doué et qui nous a proposé ce spectacle où il retrace l'histoire de la jonglerie de ses origines à aujourd'hui avec toutes les différentes techniques qui ont existé. On ne jongle pas qu'avec des balles mais aussi avec des cerceaux, avec des balais et plein d'autres choses qu'il faut venir découvrir. C'est un spectacle ludique, accessible, décisant, à partager en famille avec vraiment cette générosité qu'on retrouve ce lien au public que Olivier Palmer défend dans cette proposition. Ce sera un bel avant-goût avant les fêtes de nos fins d'année.
Et alors on continue à Château-Gontier avec Le Carré. Maël Grenier, directeur du théâtre, et Christine Houdard, programmatrice jeune public, nous en parle. Écoutez.
Un petit peu avant Noël, nous arrivons le vendredi 13 décembre avec La Maison de Bernarda Alba, qui est un texte de Federico Garcia Lorca. Artiste, dramaturge et poète espagnol qui est mort en 1936. Et donc il se trouve que c'est sa dernière pièce, qui est une pièce qui est un drame en fait, un drame intense qui parle de la place des femmes, et nous y revoilà, et aussi de la société espagnole dans les années 30. Dans les années 30, c'est une société très religieuse, très conservatrice, enfermée dans ses traditions et ses codes sociaux. Et La Maison de Bernarda Alba parle de ça. C'est l'histoire d'un deuil. Bernarda Alba vient de perdre son mari et elle décrète un deuil de 8 ans. Elle impose un deuil de 8 ans à ses 5 filles qui sont célibataires. Donc 5 filles qui sont en âge, en tout cas, d'aimer et d'être aimées. Et il se trouve, je le dis parce que c'est intéressant, la question du deuil de 8 ans, je pensais que c'était une invention dramaturgique, en tout cas une volonté de souligner. Et non, historiquement, ça se faisait. Donc ça paraît dingue de connaître ça. Et Yves Bonnen, le metteur en scène, a voulu porter à la scène cette histoire avec un magnifique plateau artistique de très belles comédiennes. Donc c'est un spectacle qui parle de l'étouffement, de la place des femmes, mais surtout du désir. En fait, c'est un drame heureux, c'est un drame de vie, c'est un drame de pulsion de vie. Et on traverse avec elle toutes ces questions qui traitent du désir, de la liberté, de la place de la femme, de l'émancipation. On y revient encore dans une version totalement différente. Et Yves Bonnen, qui était déjà venu ici il y a 2 ans pour proposer un Tartuffe de Molière, qui avait été pas mal suivi par les spectateurs, à garder la fidélité avec un compositeur qui s'appelle Camille Rocailleux. Et donc la pièce est scandée de quelques petits moments a cappella qui sont des vrais bijoux. Voilà, c'est un très beau moment de théâtre de la saison le 13 décembre.
En amont de La Maison de Bernarda Alba, on aura le premier rendez-vous, on vous invite à Hors d'œuvre, qui est un apéro psychanalytique. Donc là, on est toujours avec l'Association pour la cause freudienne. Et donc, on réinvente ce rendez-vous préambule au spectacle dans une forme plus apéro, justement, pour aborder les thématiques liées au spectacle. Donc, on aura plusieurs rendez-vous dans la saison, donc à 19h, pour se mettre, en tout cas avoir le regard de la psychanalyse autour des thématiques abordées dans les spectacles. Et ce sera aussi plus participatif, en tout cas dans l'échange, il y aura plus de temps laissé à l'échange avec le public sur les questions abordées.
Voilà, la JT du local s'arrête ici, ça continue sur les ondes de l'autre radio avec une soirée chargée en sucreries musicales du passé. Eh bien oui, à 19h, c'est Dance Hall Social Club qui arrive sur nos ondes. On regarde maintenant quand même ce qui se passe ce week-end sur les ondes de l'autre radio. Samedi, votre émission Rock Dreams fait un focus sur le groupe Noir Désir. L'émission sera suivie de Rock à la Casbah. Le samedi est plutôt musical. Et alors le dimanche commence toujours sportif quand il y a Sport Épique qui arrive à 11h. Interview, quiz, chronique, que des bonnes ondes seront au rendez-vous comme chaque fois avec l'équipe de Benoît. Votre week-end se termine toujours avec du jazz puisque chaque semaine, c'est l'émission Jazz Attitude qui termine en beauté qui commence à partir de 21h. Moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du local. D'ici là, osez faire quelque chose pour la première fois, même un tout petit pas, une nouvelle saveur, une autre route, un mot inattendu. Le neuf a souvent le goût du beau. Je ne vous parle pas d'objets mais d'expériences. S'il vous plaît, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.